franceinter.fr.
La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Et bonjour à tous. C'est demain seulement, demain qu'ils prendront le départ des Sables d'Olonne. À 13h02 précisément. Top départ donc pour la 8e édition du Vendée Globe. 29 bateaux, 29 skippers qui s'élanceront pour ce grand tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Le Benjamin a 23 ans, le doyen 66 et ils ont un peu plus de 45 000 km à parcourir. Ce qui équivaut à un peu moins de 25 000 marins, 25 000 marins, des émotions en perspective, du suspense et des abandons. Et à la une ce matin d'une bonne partie des journaux. L'aventure commence, titre La République, oubliant que l'aventure ne commence que dans 24 heures. Sur le Vendée Globe, la fièvre monte, titre Ouest France, tandis que Le Parisien nous livre les petits secrets de certains des aventuriers. Un voilier sur la mer, pleine page également dans Libération. Comme une invitation au voyage, prenons le large, lance le journal, en précisant que le record de l'épreuve est détenu par le Français François Gabart lors de la dernière édition, 78 jours, 2 heures et 16 minutes, record à battre évidemment. Désormais en bateau, on peut donc faire le tour du monde en moins de 80 jours. Mais le monde, dans 80 jours, à quoi ressemblera-t-il? Eh bien, quand les navigateurs rentreront de leur périple, ils constateront qu'il a évidemment changé. D'abord, les USA auront un nouveau président.
Oui, le vote a lieu mardi prochain et le sujet fait la une du Figaro ce matin.
Aux États-Unis, la campagne de toutes les outrances, relate le quotidien qui revient sur un sondage paru dans le New York Times. Consterné par le niveau des débats, 82% des Américains se disent dégoûtés par les injures et les attaques personnelles auxquelles se sont livrés démocrates et républicains. Jamais d'ailleurs des candidats n'ont été si impopulaires. Un taux d'impopularité de 60% pour Donald Trump et de 53% pour Hillary Clinton, laquelle tente aujourd'hui de mobiliser l'électorat afro-américain. Il avait voté en masse pour Obama il y a 8 ans, mais aujourd'hui, il pourrait bien choisir en majorité l'abstention. C'est aussi ce que pourraient faire les jeunes qui s'étaient engagés en faveur de Bernie Sanders, ainsi que l'explique La Croix qui s'intéresse aux doutes de la jeunesse américaine. Les jeunes américains ne rêvent plus. C'est le titre du reportage et là encore, il apparaît que cet électorat préfère de loin Clinton à Trump, mais que déçu par le très piètre niveau de la campagne, il pourrait décider de s'abstenir mardi prochain. Dès lors, une idée pour Hillary Clinton, inviter tous les électeurs à se plonger dans la lecture des aventures d'Harry Potter. C'est ce que suggère cette étude dont se fait l'écho Alternatives économiques. Étude menée pour savoir si les valeurs portées par les romans de J.K. Rowling pourraient contribuer au rejet de la candidature de Trump. La première de ces valeurs étant, pour résumer, la tolérance face à toutes les différences. 1000 Américains ont été interrogés et voilà la conclusion de la chercheuse qui a eu l'idée de cette enquête. Plus les gens lisent Harry Potter et plus ils respectent, notamment les musulmans et les homosexuels, plus ils lisent Harry Potter et moins ils croient en l'efficacité des politiques punitives. Et donc finalement oui, plus ils lisent Harry Potter et moins ils aiment Donald Trump. Comme le rappelle l'auteur, il n'est d'ailleurs pas rare d'attribuer une influence politique à un roman. On sait ainsi que la case de l'oncle Tom a fait beaucoup pour amener l'opinion publique américaine à refuser l'esclavage. Et c'est donc à lire dans Alternatives économiques.
Mais l'édito du mensuel est consacré à un autre sujet, l'évacuation des migrants de la jungle de Calais.
Triste expression que ce mot jungle, on laisse ainsi penser qu'on parle d'animaux. Ou que ceux qui y vivaient comme des animaux à tout prendre, on préfère ce sous-entendu là. Et comme s'en réjouit Guillaume Duval, on a donc évacué sans trop de casse cette jungle de Calais. Quant au transfert des milliers de réfugiés qui s'y trouvaient, transfert dans 450 centres répartis sur le territoire, il n'a pas mis le pays à feu et à sang. Preuve, selon l'éditorialiste, que même s'ils râlent beaucoup et que même s'ils donnent parfois leur suffrage à de dangereux bouts de feu, les Français ne sont pas devenus pour autant, dans leur grande majorité, un peuple de racistes inhumains prêts à rejeter à la mer des hommes et des femmes qui fuient la misère et la guerre. Il faut se souvenir, ajoute-t-il, que parmi les pays occupés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, la France est celui qui a réussi à sauver le plus de juifs en les cachant. En réalité, conclut-il, les Français valent mieux que ce que leurs dirigeants pensent d'eux. Et de fait, le pays n'est donc pas à feu et à sang. Du reste, et ainsi que le rapporte le Parisien, c'est sans incident que 3800 réfugiés ont été évacués hier de la place de Stalingrad à Paris. Ils ont été transportés vers des centres d'hébergement, parfois aménagés au tout dernier moment. Cependant, prévient Libération, ce démantèlement ne sera sûrement pas le dernier dans la capitale et il devrait y avoir d'autres évacuations. D'abord parce que le flux des arrivées ne se tarit pas. Ensuite parce que Paris est désormais le principal point d'attraction en France depuis la destruction du campement de Calais. Au nord de la ville, certains réseaux de passeurs sont d'ailleurs devenus très actifs. Quand les navigateurs du Vendée Globe rentreront de périple, de leur périple autour du monde, ils découvriront par ailleurs que la droite française a enfin choisi son candidat pour la présidentielle. Les journaux ce matin reviennent sur le deuxième débat qui s'est tenu jeudi dernier.
Oui, si l'on en croit le Figaro, tous les candidats sont très satisfaits de leurs prestations.
C'est du moins ce que rapportent leurs proches. Les proches de Nicolas Sarkozy, ils l'ont trouvé très détendu. Les proches d'Alain Juppé, ils l'ont trouvé très puissant. Les proches de François Fillon, très précis, très concret. Les proches de Bruno Le Maire, motivés comme jamais. Quant à ceux de Nathalie Kosciusko-Morizet, ils estiment qu'elle a tout simplement crevé l'écran. Autant de qualificatifs évidemment très élogieux, quasi des mots d'enfants dont on a d'ailleurs l'habitude de dire qu'ils sont de droite. Les enfants sont de droite. Pourquoi ? L'explication se trouve ce matin dans les colonnes du Petit Libé, le supplément jeune du journal, qui nous raconte que dans une cour de récréation, c'est très généralement l'enfant le plus fort qui a le plus de pouvoir. Des scientifiques français et suisses ont d'ailleurs récemment fait des expériences avec des enfants qui confirment un peu ce sentiment. Dans l'une d'elles, ils ont inventé une histoire entre deux marionnettes. Appelons-les Caramel, le chat, et Noisette, la souris. C'était toujours Caramel qui choisissait les jeux. Les enfants voyaient bien que c'était Caramel, le chef. Les scientifiques ont ensuite demandé aux enfants de donner un petit chocolat à l'une des marionnettes et un grand chocolat à l'autre. Or, ceux qui avaient 3 et 4 ans donnaient le grand chocolat à Caramel, le chef. Ceux de 5 ans le donnaient soit à Caramel, soit à Noisette. Et ceux de 8 ans donnaient le grand chocolat à Noisette, celui qui ne décidait jamais. Mais pourquoi ces choix différents selon l'âge ? Eh bien notamment parce qu'à 3 ou à 4 ans, on dépend beaucoup de ses parents. Ce sont eux qui décident et ça semble normal. C'est pour ça que les plus petits donnent le grand chocolat à la marionnette qui décide. Quand on a 8 ans, on est un peu plus indépendant et on pense que si on donne à ceux qui ont moins, les autres nous aideront aussi le jour où on en aura besoin. En donnant le grand chocolat à la marionnette qui a moins de droits, les enfants veulent rééquilibrer. Avec ces expériences, on peut imaginer que les enfants les plus jeunes ressemblent plutôt donc à des gens de droite, même si bien sûr, ils n'ont pas encore précisément d'opinion politique.
On l'espère.
Quand les navigateurs du Vendée Globe rentreront de leur périple autour du monde, ils verront également ce qu'est devenu la Turquie. Quelques heures après leur arrestation par les autorités, 11 des dirigeants du parti d'opposition pro-kurde ont été placés en détention préventive dans la République des Pyrénées. Jean-Marcel Bougreau estime que la Turquie, pays que l'on a pu décrire comme un exemple de démocratie dans le monde musulman, a aujourd'hui basculé dans une dictature qui n'a rien à envier à certains précédents latino-américains. Dans 80 jours, on saura aussi ce qu'il en est du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le coup de théâtre, titre ce matin Presse-Océan. Lundi, le rapporteur de la Cour administrative de Nantes va demander l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant les travaux sur le site. Et souvent, ce genre de demande obtient satisfaction. Enfin, dans 80 jours, et même dans 8 jours, on saura comment s'est déroulée la réouverture du Bataclan un an après l'attaque terroriste qui a fait 90 morts. C'est le chanteur britannique Sting qui viendra donner un concert. Sting va réveiller le cœur du Bataclan, commente la Provence, tandis que West France donne à lire l'émotion du gérant de la salle. Et oui, il y aura de l'émotion.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.